Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 21 mars de l'an 2001 à Saint-Jeudard.
Il y a une question avant de continuer. L'être en acte dans le monde physique. Est-ce que l'être d'une réalité se transforme ou demeure immuable malgré les apparences sensibles qui sont de l'ordre du devenir? Quelle est la cause du devenir? Est-ce que le devenir peut tenir tout seul? Où est-ce que le devenir existe? Ah. Il faut répondre à cette question-là. Le devenir existe. Il est. Donc, il y a un mode de l'être qui se donne dans le devenir. Mais c'est de l'être, le devenir. Mais ça n'est très imparfait. On va voir que dans le devenir, qu'est-ce qui domine? C'est la cause matérielle. Vous n'auriez que des êtres de pur devenir. Le monde des crapauds, le monde des moustiques. Puisqu'on dit qu'ils existent très peu de temps, les moustiques. Je ne sais pas combien de temps, mais très peu de temps. Qu'est-ce qu'on aurait comme être? On aurait de pauvres petits êtres qui n'apparaissent que dans le devenir. L'être du vivant, ah, il est plus être, si j'ose dire. Le vivant a un capital d'être plus que la pierre. Ça, on est tous d'accord. Hein. La pierre existe, mais son capital d'être est moins que celui du petit crapaud. Et puis vous avez l'être chez l'homme, l'être spirituel. Et votre être spirituel est plus être que l'être de la pierre. Alors, ne posez pas dialectiquement être et devenir. Il n'y a pas d'opposition dialectique entre les deux. Puisque l'être est dans le devenir. Puisque le devenir est être. Mais il est un mode d'être très faible. Très matériel, un mode d'être qui change tout le temps, qui se transforme tout le temps. Mon être sensible, mon être physique, s'est changé depuis le berceau. Quand vous regardez votre photographie dans votre berceau, ah oui, vous dites, ah c'est bien moi, oh, je me reconnais. Mais non, vous ne vous reconnaissez pas du tout. Oui, votre être, mais il change votre devenir, c'est votre devenir qui change. Et l'être est ce qu'il y a d'unifié en vous. C'est le même être petit enfant et le même être jeune homme et le même être vieillard. Alors, vous voyez? Là, vous saisissez l'analogie, la diversité dans l'unité. L'unité, c'est l'être, c'est le même être, identiquement le même être, depuis votre berceau, jusque maintenant. Et votre devenir, est totalement différent. Hein. Je marchais à quatre pattes quand j'étais dans mon tout petit. Maintenant, j'en ai plus que deux. J'ai libéré mes bras. Puisque c'est ça la libération de celui qui marche à deux bipèdes. S'il a deux bras. C'est-à-dire que je vais être à quatre pattes, les bras sont des pattes. Alors le devenir change tout le temps. Vous êtes maintenant et demain vous serez autrement. Et vous serez plus ce que vous êtes maintenant. Votre être devenir, il est éphémère. Il n'existe que dans l'instant présent. Votre être devenir, il n'existe que dans l'instant présent. Il n'existe pas dans le passé. Il n'existe pas dans l'avenir. Dans l'avenir, votre être. Demain, ah oui, mais demain, vous n'existez pas encore demain. Vous existez intentionnellement. Et le passé, vous existez encore intentionnellement. C'est votre intelligence qui compose passé, présent, futur. Le devenir est mesuré par le temps. Votre être est-il mesuré par le temps ? Non. Il m'est donné dans l'instant. Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin dit, si on imagine un instant substantiel, on a l'éternité. Tandis que si j'imagine le passé, je n'ai pas l'éternité. Et si j'imagine le futur, substantiellement, je n'ai pas l'éternité. L'instant présent, qui seul existe. Mon instant présent saisit dans mon devenir mon être. Et mon être, il existe en l'instant présent, à travers le devenir, dans le devenir. Il se manifeste dans le devenir. Vous voyez, il ne faut surtout pas poser dialectiquement être et devenir en opposition. Il faut comprendre que, analogiquement, que le devenir, c'est de l'être. Mais un être qui a un mode très spécial, il devient. Il devient. Et le devenir, il n'est que dans l'instant présent. Votre devenir physique, il n'existe que dans l'instant présent. Il va devenir physique. Hein. Mais comme vous avez une âme qui vit, vous durez. Et comme vous avez une âme spirituelle, vous êtes fait pour l'éternité. Votre être, il est fait pour l'éternité. Votre être spirituel, par l'intelligence. Votre être vital, il est fait pour demeurer tout le temps de votre vie. Tout le temps de votre vie. Mais il y a la mort. La mort arrête votre être de vivant biologiquement. Vous ne vivez plus, mais vous vivez d'une autre manière, par votre âme spirituelle. Dont vous n'avez pas d'expérience et que vous posez philosophiquement. Donc, alors je relis la question. Est-ce que l'être d'une réalité se transforme ou demeure immuable ? Vous voyez, ça c'est imaginaire. Vous imaginez que l'être est immuable dans le devenir ? Non, il est dans le devenir. Il se transforme dans le devenir, par le devenir. Mais il est et il n'est pas le devenir. Le devenir n'exprime pas tout votre être. Votre être est plus que votre devenir. Mais il se manifeste dans le devenir. c'est vrai, votre être ne se manifeste pas par l'éternité. Non, l'éternité en vous n'est qu'intentionnelle. Malgré les apparences sensibles qui sont de l'ordre du devenir. Les apparences sensibles sont de l'ordre du devenir, c'est très vrai, mais l'être qui est en vous est dans le devenir aussi. Votre devenir, c'est de l'être, c'est votre être. Le devenir n'est-il pas influencé par l'être ? N'est-il pas intimement lié à l'être ? Oui. Il n'est que par l'être. Il n'est pas un autre être. Vous voyez ? Vous imaginez, quand vous prenez dialectiquement être et devenir, vous imaginez un devenir qui est en dehors de l'être. Alors il y a un petit combat. Vous devez comprendre analogiquement. L'être, vous ne pouvez le saisir qu'analogiquement. Et vous saisissez que votre être se manifeste, il est de diverses manières. Il est dans le devenir pur, il est dans le vivant, il est dans l'être spirituel. Et lorsque vous réfléchissez, c'est votre être dans la pensée. Mon être est dans ma pensée, mon être est dans mon amour, mais ma pensée n'est pas mon être, mon amour n'est pas mon être, parce que ma pensée n'est pas substantielle, mon amour n'est pas substantiel, il est intentionnel. Mon être est substantiel, mon âme. Alors, il y a quelque chose de l'âme, quelque chose en moi qui dépasse le point de vue de l'intelligence, qui dépasse le point de vue de l'amour. C'est sûr. Mon être n'est pas tout entier dans mon amour. Quand il dit « Je t'aime à la folie, tout mon être est pour toi », oui, oui, dans la parole, c'est très bien, mais pas la réalité. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre tout votre être et le donner, parce qu'il n'est pas don, votre être. Il est en vous. Mais vous pouvez intentionnellement, je t'aime à la folie. Donc tout mon être est pris par ça. Mais attention, la folie, c'est pas l'être, c'est l'intention. Vous voyez, comme le langage est trompeur. Hein. C'est vrai, si on prenait le langage comme la réalité, où est-ce qu'on irait? C'est le cas de le dire. Où est-ce qu'on irait? Donc, il faut le comprendre analogiquement. La saisie de l'être, je le fais à travers mon expérience du devenir. J'ai l'expérience du devenir. J'ai l'expérience de l'immanence de l'opération vitale. De l'immanence. J'ai l'expérience qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la vie, l'être. Que je saisis pour lui-même, en métaphysique. Et si je ne fais pas de métaphysique, je n'ai jamais la saisie de l'être pour lui-même. Je l'ai à travers la vie, à travers la physique. Au fond, vous avez là une manière très élégante de juger les diverses philosophies. Il y a une philosophie qui identifie le devenir et l'être. Il y a une philosophie qui identifie la vie et l'être. Il y a une philosophie qui identifie la pensée et l'être. Il y a une philosophie qui distingue l'être, de la pensée, de la vie et de dire. Vous avez donc quatre types de philosophie. Une philosophie qui identifie le devenir et l'être. Ça existait. Tout l'effort premier de la philosophie grecque a été de distinguer, pas de séparer, de distinguer l'être et le devenir. Tout l'effort de la philosophie grecque a été ensuite de distinguer l'être du vivant, des opérations vitales, de distinguer l'être de la pensée. Oui. C'est l'imagination qui me fait identifier le devenir et l'être. C'est l'imagination qui me fait identifier l'être et la vie. C'est l'imagination qui me fait identifier la pensée et l'être. C'est l'intelligence qui distingue la pensée de l'être. Et je ne peux atteindre l'existence de l'être premier que lorsque j'ai élaboré cette distinction de l'intelligence et de l'être. Autrement, je découvre Dieu identique à ma pensée. Je découvre Dieu identique à ma vie. Je découvre Dieu identique au devenir. Et ce n'est pas Dieu. C'est imaginativement le premier. Oui, c'est très important ça. Jugement critique entre distinguer l'être et le devenir. Mais le distinguer, non pas comme je distingue le genre de la différence spécifique, mais la ratio du mode. Oui. J'ai deux registres de pensée. J'ai un registre de pensée, l'universel univoque, le genre. Et je distingue le genre de la différence spécifique. La différence spécifique est en dehors du genre. Je distingue la raison, la ratio, du mode. Distinction d'une abstraction formelle qui distingue la philosophie de mon langage ordinaire. Dans mon langage ordinaire, j'ai la distinction du genre et des différences spécifiques. Dans mon langage philosophique, j'ai la distinction de la ratio et du mode. C'est très simple à saisir, hein, et c'est très intéressant à regarder la manière dont les divers philosophes brouillent les cartes. Ils n'ont pas cette distinction très nette. Et la manière dont les philosophes, dès qu'il y a distinction, parlent de séparation. Vous distinguez l'être et le devenir, vous ne les séparez pas. Vous distinguez l'être et le devenir dans le langage. Vous distinguez l'être et le devenir. Vous reconnaissez que actuellement vous existez, que hier vous avez existé. C'est le passé. Et demain, normalement, vous existerez encore. Tout le monde peut le faire dans le langage courant. Hein, je distingue le passé, le présent et le futur. Je distingue ça. Et je dis que le passé est présent dans l'instant présent. Et d'une certaine manière, le futur dépend de cet instant présent et donc du passé. Mais il n'est pas le passé. Dans mon langage, je fais ça. Je distingue l'être et le devenir. Oui, c'est la première distinction philosophique qu'on doit faire. En comprenant que je les distingue, mais que je ne les sépare pas. Si je les sépare, je donnerai au devenir une autonomie et le devenir existerait par lui-même. Alors la première chose qu'Aristote a faite, c'est de montrer que le devenir ne pouvait pas exister par lui-même. Au-delà du monde du mouvement, il y a nécessairement un être immobile. Ah. Premier dépassement du monde physique. Il y a nécessairement un être immobile. Le pur devenir, impossible. C'est très intéressant, vous allez de faire ça. Aristote a fait ça dans la physique. Alors on a dit à la physique, il a découvert l'existence de Dieu. Mais non, il a découvert l'existence d'un être qui serait au-delà du devenir. Il y a beaucoup d'êtres qui sont au-delà du devenir. Pas nécessairement Dieu. En réalité, Dieu est parfaitement un être au-delà du devenir. C'est vrai qu'il dépasse le devenir. C'est le devenir pur. N'est pas intelligible. Il est intelligible parce qu'il est. Et donc, l'intelligibilité du devenir vient de l'être. Vous dépassez le devenir pour qu'il soit intelligible. Vous ne pouvez pas découvrir Dieu dans le vivant pur. Le vivant pur est immanent. Alors vous auriez un Dieu immanent. Et Dieu n'est pas dans la pensée. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de concept de Dieu. Si vous aviez un concept de Dieu, Dieu serait dans la pensée. Intelligemment. Intentionnellement. Dieu est au-delà. Ah, l'être. Dieu n'est pas au-delà de l'être. Il est. Il est. Si je vais au-delà de l'être en disant Dieu est non-être, la manière de considérer la négation à l'égard de l'être comme dépassé. Donc Dieu est le néant. Il est dans l'être. Non, il est. Mais c'est vrai que dans la pensée, Dieu est au-delà de tout ce que vous expérimentez. Donc, il est au-delà de toute détermination. Il est au-delà de toute cause formelle. Il est. Et l'être me permet de le dire parce que la détermination est une manière d'être. Et vous pouvez dire que Dieu est substance, première détermination dans l'ordre de la cause formelle, il est substance, parce que ça n'implique aucune imperfection. Bon. Alors continuons notre recherche. Quel est l'être en acte ? dans le monde purement physique. La question que je me pose, dans le monde du devenir, notre monde dans lequel nous sommes est un monde physique. La terre est un monde physique. Le feu est un monde physique. L'air est un monde physique. L'eau, les quatre éléments. Les quatre éléments, c'est le monde physique. Les quatre éléments sont distincts grâce aux sensibles propres. Et les quatre éléments sont posés en fonction des sensibles propres. La philosophie de la nature me conduit à connaître les quatre éléments. C'est le monde du devenir. Le devenir est à ce niveau-là, au niveau de la terre, au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au niveau du feu. Et tout devenir est toujours à ce niveau-là. Chercher un devenir en dehors de là, vous n'en trouverez pas. Tout devenir. Le devenir, c'est ce que je touche. C'est que ce que je goûte, ce que je vois, ce que je sens, ce qui est expérimenté, c'est l'avantage et le caractère spécial du devenir, c'est qu'il est objet direct expérience. Toutes vos expériences, au moins des expériences sensibles, on pourrait dire même les pensées, même l'expérience intérieure, mais alors il y a l'imagination. L'imagination est le prolongement de mes sensations externes. Vous avez une imagination tactile, une imagination visuelle, une imagination du goût, de l'ouïe, de l'odorat. Votre imagination, pour chacun d'entre nous, hein, un musicien a une imagination musicale de l'ouïe. Un peintre a une imagination de la vue. La cuisinière, elle a l'imagination de quoi ? Elle a du feu. Il faut que ça chauffe. Le cuit et le cru. Hein ? Donc, toutes vos expériences vous donnent le devenir. Vous voyez comme c'est encombrant, hein ? Comme le devenir est encombrant, comme il est enveloppant. Nous sommes enveloppés par le devenir. Et c'est pour ça que nous avons tant de peine à le dépasser. Toutes vos expériences. Et l'expérience du devenir n'est pas simple. Vous avez cinq expériences du devenir, sans parler les expériences internes, où le devenir est encore là. Quand vous avez mal à l'estomac, hein, vous avez une expérience du devenir, hein, votre estomac il craque. Quand vous avez mal aux yeux, expérience interne. Toutes vos expériences internes sont le devenir. Et vous précisez, quand vous avez affaire à un homéopathe, à quelle heure vous avez mal. Je me réveille toutes les nuits à 4 heures. J'ai mal à l'estomac. 4 heures est désignée dans votre estomac. Et ainsi de suite. Puisque tout devenir est mesuré par le temps. Donc toutes vos expériences sont dans le temps. Et on peut les fixer. En raison du temps. Il faut d'abord affirmer ça. C'est une affirmation massive et une affirmation qui montre combien c'est difficile de dépasser le devenir. Combien c'est difficile. L'intérêt de la philosophie grecque, c'est parce qu'elle montre bien ça. Elle montre combien c'est difficile de dépasser le devenir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très bien cette question. Et vous dépassez le devenir lorsque vous dites le devenir est. À ce moment-là, vous avez dépassé le devenir. Le feu est d'amener dans le devenir. Vous dites, ce feu existe. Il a existé. Et il existera peut-être demain. Quand vous avez un incendie de main, quand il fait très chaud, de forêt, vous savez que le feu existe. Et vous vous demandez comment il est venu. Et vous essayez de l'arrêter pour qu'il ne sera plus demain. Donc vous voyez que vous essayez de mesurer le devenir, de le dépasser. Et vous le mesurez par le passé, le présent et le futur. C'est la première manière de mesurer le devenir. Et en le mesurant, d'en être celui qui le domine. Vous dominez le devenir par le temps. Et c'est vrai, vous dominez le devenir par le temps. Oui. Quand vous avez très mal à l'estomac, vous espérez que le lendemain, vous n'aurez plus. C'est pour ça que vous prenez un remède. Votre mal est dominé par le temps. Et vous essayez de saisir l'être dans le devenir, par le devenir. Vous le saisissez comme ce qui est dans ce mode très imparfait du devenir. Vous savez qu'il est. Est-ce que vous saisissez l'acte, l'être en acte dans le devenir? Je pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que vous saisissez l'être en acte dans le devenir? Vous allez tout de suite répondre. Dans le devenir, je saisis non pas l'être en acte dans sa pureté, cependant, je saisis bien l'être en acte, puisque je dis ce devenir existe. Ah. Et on a vu que l'existence, c'était l'être en acte. Donc, vous saisissez bien l'être en acte. Vous saisissez l'être en acte dans une réalité en face de vous. Ce crapaud, il est. Il est, il existe. Même si demain il ne sera plus, il est maintenant. Donc il est en acte. Dans le devenir, vous saisissez l'être en acte. Mais vous saisissez l'être en acte dans le devenir comme étant fugitif. Il ne demeure pas en acte. Il est en acte. Et demain, il ne sera plus. C'est un acte que je saisis dans l'instant présent. Dans cet instant présent, je saisis l'être en acte. Ça, c'est très important, vous voyez, de saisir l'être en acte dans l'instant présent. Ça montre que mon jugement d'existence, quand je dis ceci est, je saisis l'être en acte. Mais je le saisis dépendant et complètement dépendant du devenir. C'est sa limite, le devenir. Il dépasse au-delà du devenir. Il est totalement dépendant du venir. L'être en acte du monde physique est totalement dépendant du devenir. L'être en acte de la pierre, qui pourtant a une stabilité, la pierre, elle sera encore pierre demain. Oui, mais c'est un être en acte tout à fait dépendant du devenir. Cette pierre, elle pourrait disparaître. Elle pourrait être réduite à la poussière. Tout ce qui est dans le monde physique est poussière. Je saisis donc un être en acte fugitif. Or, l'être en acte fugitif, c'est une... J'allais dire, c'est presque une contradiction, n'est-ce pas? Parce que l'être en acte, en tant qu'être en acte, est victorieux de toute potentialité. Il est en acte, donc il est indépendant de toute façon. Oui, mais de fait, cet être en acte est très peu être en acte. Il est très limité, très contrarié par le devenir. D'où ça vient, ça? Comment se fait-il que l'être en acte dans le monde physique est fugitif, passager? Uniquement à l'instant où je le saisis. Et quand je le saisis, il existe. Donc il est en être en acte. Ah, c'est que dans le monde physique, l'être en acte émerge de la potentialité radicale qui est la matière. L'être en acte dans le monde physique est constamment dominé par la cause matérielle. Il émerge de la cause matérielle. Et en tant qu'il est en acte, il n'est pas la cause matérielle. Il émerge. Il est quelque chose qui est au-dessus de la matière. Il est. Et il est, ce n'est pas la matière. Il est en lui-même quelque chose de spécial. Et étant dans la réalité matérielle, il est comme emprisonné par la cause matérielle, et la cause matérielle est toujours victorieuse dans le monde physique. C'est pour ça que cet être en acte dans le monde physique, je ne sais pas si demain il sera. Je peux affirmer, normalement, demain il sera, mais je ne sais pas, il pourrait très bien ne plus être. Je ne peux pas dire, le monde matériel est éternel. Non, le monde matériel est essentiellement dans le devenir. Donc, essentiellement, il pourrait n'être plus. Et comme son être est entièrement saisi par le devenir, ce devenir très bien ne pourrait très bien ne plus être. C'est ça la réalité du monde physique. La réalité du monde physique, c'est d'être fugitif dans son existence. C'est de n'exister qu'un instant. Il existe un instant. Et il n'a pas assez d'être pour exister au-delà du devenir, pour être un être stable, immortel, incorruptible. Il y a donc une expérience du devenir qui est très importante pour saisir la contingence de l'être physique. L'être physique n'a aucune stabilité. Il est maintenant. Mais il pourrait très bien disparaître demain. Parce que son être est entièrement absorbé par le devenir. L'être de la pierre, l'être du vent, l'être du feu est entièrement absorbé par son devenir. Et son devenir fait qu'il est maintenant, mais que demain, il peut très bien ne plus être. Donc, on voit que l'être en acte dans le monde physique est, ce serait terrible de refuser l'être en acte dans le monde physique. Ça voudrait dire que l'être physique n'existe pas. Ça voudrait dire que le monde matériel n'existe pas. Il n'est pas. Non, le monde matériel existe. Je dois l'accepter. Il existe. Et je le saisis dans toutes mes expériences. Vous voyez comment on arrive à nier l'expérience en niant l'être physique, en niant l'être dans le devenir. En niant l'être dans le devenir, je nie l'existence de la cause matérielle. La cause matérielle a ceci de tout à fait particulier, c'est qu'elle émerge tout le temps dans le devenir. Et donc, elle n'existe que dans le devenir. La matière n'existe que dans le devenir. Notre monde physique n'existe que dans son devenir. Il n'existe que pour un temps. Alors ceci fait comprendre le caractère tout à fait particulier de la cause matérielle. Parce que l'être physique étant fugitif, la matière accapare. Si l'être physique n'était pas fugitif, la cause matérielle pourrait être accueillante. Rien n'est moins accueillant que la cause physique, la cause matérielle. Parce que son être, l'être en acte, est fugitif en elle. Il n'a aucune stabilité. Il est dans l'instant présent. Et il n'est que dans l'instant présent. Il est fugitif. Par l'imagination, il demeure, mais imaginativement, il n'existe pas réellement. Mais le monde physique demande toujours d'être complété par l'imagination. Parce que c'est terrible de vivre un monde qui n'existe que dans l'instant présent. C'est pas drôle du tout. Hein. Mon intelligence est faite pour quelque chose d'incorruptible, d'immortel. Mon intelligence est dans le monde dans lequel je suis. C'est la corruptibilité. Alors, très facilement, on arrive à voir une espèce d'opposition imaginative vis-à-vis du monde physique. On rend le monde physique coupable de cette non-stabilité. Alors que par nature, il est comme cela. Il n'en peut rien. Notre monde physique, par nature, par lui-même, est instable, corruptible. Il n'existe que dans l'instant présent. Et par lui-même, il est corruptible, il disparaît. Alors, très vite, je peins par l'imagination, je peux compléter cette instabilité par l'imagination, par le rêve. Ou bien je m'enfouis en lui en montrant que la négation est première. Vous voyez, dans le monde physique, purement physique, comme l'être existant n'est que dans l'instant présent. Le non-être est dans le passé, dans le futur. Le non-existant, disons, le non-être en acte. Le passé n'est pas, le futur n'est pas, n'est que l'instant présent. Vous voyez que si je n'ai que l'expérience du monde physique, la négation enveloppe l'être en acte. Et très vite, la négation sera première. La matière est premièrement négation d'être. Elle permet le devenir. Pour que le devenir existe, il faut d'abord une négation d'être. Pour que le devenir existe. Alors, celui qui n'a que l'expérience du devenir, qui s'enferme dans son expérience humaine du devenir, externe et interne, a cette conviction que le non-être est avant l'être. Vous voyez ? Puisque l'être en acte est enveloppé du non-être. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Donc, la négation enveloppe ce qui est maintenant, à l'instant présent. Et j'arriverai à concevoir que l'être négatif est premier. Ce qui est scandale pour la métaphysique. Mais ce qui, si je ne vois que l'être en devenir, si je ne vois que l'être mobile, j'affirme tout de suite, l'être en acte est enveloppé du non-être. Et donc le non-être est premier. voyez, c'est intéressant de voir comment, si je ne fréquente que le monde physique, j'arrive à affirmer la négation première. J'affirme que le non-être est premier. C'est le monde purement physique me montre cela. Il manifeste plus le non-être que l'être. Et il manifeste l'être à l'intérieur du non-être, comme émergeant du non-être, comme devenant à partir du non-être. Ce qui n'est pas vrai, parce que du non-être, rien ne devient. Il faut que ce non-être soit dominé par un être en acte pour qu'il puisse devenir, pour que du non-être émerge l'être en acte. Il y a donc une cause efficiente qui est première. Dans le monde physique, la cause efficiente m'apparaît comme dominante. Cette cause efficiente, évidemment, n'exercera son rôle que par la finalité, mais la finalité, je la vois toujours à travers le devenir, à travers le futur.